Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir, ah là là, micro défectueux. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Cour d'honneur, saison 5, épisode 4. J'espère que vous êtes prêts à nous écouter en cette rentrée de Toussaint. En tout cas, nous, on est bien présents entre les derniers examens, les prochaines révisions et les prochains reportages qui s'annoncent. Restez avec nous pour parler de bons petits plats au cinéma, en passant par les sciences et les élections, tout en restant sur nos traditions. On se pose toujours cette même question, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne? Et on y répond toujours sur Radio Sorbonne Université, votre magazine préféré d'info et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus. C'est un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris. Alors, pendant une heure, on va parler de sciences.
Très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne.
On va parler de cinéma.
Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont...
Et toujours un peu de politique.
Vous, et c'est vous, moi. parce que, mais oui, bien sûr, votre
moi.
Parti...
Mais qui elle est, parti, celle-là? Qu'est-ce que j'ai
RPR,
fait, moi?
Le RPR, l'UDF...
Marine Le Pen, Pierre
Bellier. Excusez-moi. Promesse avec la meilleure des équipes pour vous servir. Bonsoir Clara.
Et bonsoir, ravie d'être à nouveau sur Cour d'honneur.
Bonsoir Elias aussi, le fameux.
Et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mélodie Tran Tuan, la vice-présidente étudiante de Sorbonne Université.
On a très hâte de cette interview. Bonsoir également à Ellie.
Bonsoir tout le monde, à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et moi ce soir je fais une petite chronique pavée sur un lieu qui est indispensable pour se rendre à la Sorbonne et qui est lié à la Sorbonne.
Bonsoir aussi à Mathilde, New Girl.
Bonsoir, ravie d'être là. Aujourd'hui je vais vous parler des bons plans pour combattre ce mois un peu déprimant.
On a hâte de cette nouvelle petite chronique. On dit aussi bonsoir à Thomas qui est là avec nous ce soir.
Mais oui, bonsoir à tous. Moi ce soir je vous parle de ce qui compte le plus sur Terre, la bouffe.
Absolument. Du haut de l'amphi, alors faites comme chez vous, chers auditeurs, installez-vous et prenez place. Du haut de l'amphi, dans votre chambre de bonne aux toilettes sur le palier, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment possible.
Carte blanche.
Ah, l'automne arrive et avec lui la flemme et l'envie de commander des pâtes pesto tous les soirs. On n'a pas toujours les ustensiles ni l'énergie et les petits plats de papa-maman nous manquent déjà. Heureusement, Thomas, avec ses longues années d'expérience et ses bons réflexes de survie étudiante, nous sert aujourd'hui 5 conseils en or pour bien manger sans se prendre la raclette, sans se prendre la tête.
Exactement. Alors ce soir, le vieux Schnell a sorti ses lunettes pour vous amener au coin du feu, vous raconter les bonnes recettes de grand-mère. Ce qui vous permet de vous ragaillardir, de vous restaurer tout en restant en bonne santé, bien évidemment. C'est essentiel aujourd'hui. Sachez, chers étudiants, que je vous vois bien trop souvent aller au distributeur automatique pour aller quérir quelques-unes de ces friandises, quelques-unes de ces barres chocolatées qui vous font tant envie. Et moi, je vous dis, moi, le vieux Schnell, renoncez à céder à la tentation, puisque le meilleur des petits snacks que vous puissiez emporter avec vous est pas cher, ce sont des amandes. Et oui, vous ne doutez pas de toutes les qualités nutritives de ces oléagineux que vous pouvez emporter discrètement dans votre poche et puis manger au fur et à mesure de la journée. C'est bon, c'est peu calorique. Et ça vous permettra de rester fit. Deuxième conseil du bon vieux Schnell, achetez du bon pain. Renoncez à ces mauvaises baguettes que vous pouvez trouver chez Carrefour City au Monoprix. Allez chez votre boulanger. Mais ne prenez pas une baguette, non. Puisque les baguettes blanches, certes, fierté de la tradition française sont parfois particulièrement goûteuses. Je te vois, le vieux, le fameux Elias, chercher le quignon ou retirer l'ami. Non, non, privilégiez les bons gros pains de campagne. Ils coûtent plus cher à l'achat, certes, mais ils peuvent durer une semaine, peut-être même parfois 10 jours, et il n'y a rien de meilleur que du bon pain. C'est à la fois roboratif et on peut l'accompagner avec tout ce qu'on veut. Vous pouvez tartiner tout ce que vous voulez sur une tranche de pain. Vous pouvez vous permettre également de pouvoir saucer. En fait, le pain est depuis toujours le premier élément de la nutrition des Français. Donc, achetez du bon pain de campagne, des grosses miches, comme on dit. Le troisième conseil que vous donne le vieux Schnell ce soir, c'est de ne pas hésiter à faire vous-même vos soupes. Oui, vous les achetez toutes faites dans des espèces de briques. Oui, vous les aimez bien miso ou autre butternut. Mais en fait, il est très simple de faire sa propre soupe à l'ancienne, la soupe de grand-mère, la soupe du pot-au-feu. Même si vous n'avez pas chez vous de mixeur, parce que je vous vois hausser les épaules et lever les yeux au ciel et me dire « Mais Thomas, nous n'avons pas un 45 mètres carrés, nous ne pouvons pas avoir chez nous un mixeur. » Mais qu'importe, vous achetez un poireau, vous achetez une carotte, vous achetez un navet, un oignon, une gousse d'ail, vous coupez tout ça en petits morceaux sur une planche en bois, vous mettez le tout avec de l'eau, un peu de sel, un peu de poivre, vous le faites réchauffer, pif pouf, vous avez de quoi manger pour toute la semaine, parce que tout le monde sait bien qu'une soupe, c'est bien mieux quand c'est réchauffé. Au fur et à mesure, ça permet à la sauce de réduire légèrement. Vous pouvez rajouter un petit peu de thym, un petit peu de persil et d'autres plantes aromatiques que vous pouvez avoir à la maison, n'hésitez pas. Le quatrième conseil que je vous donne ce soir, c'est bien évidemment de manger du poulet. Oui, le poulet, vous en êtes fan, on le sait bien, les jeunes, les étudiants, on vous voit faire la file d'attente devant ces nouveaux restaurants fast-food qui ouvrent et que je ne comprends pas d'ailleurs cette folie-là. Non, privilégiez le poulet du dimanche, puisque de ce poulet, bien sûr, vous pourrez vous reborer pour ce grand dimanche très français, hein, bonne tradition. Ça peut coûter un peu cher, on parle de 15 à 20 euros le poulet. C'est vrai que pour un budget étudiant, c'est parfois un peu excessif. Mais le poulet, évidemment, c'est une viande maigre, ça vous permettra de conserver votre ligne. Mais surtout, c'est qu'en fait, un poulet, vous pouvez le manger le dimanche, le mardi, le mercredi. Si vous êtes seul, hein, bien sûr, entre les ailes, la cuisse, le blanc, ça vous fera largement de quoi faire. Et puis la carcasse, vous la gardez pour faire quoi ? Pour faire un bouillon de poulet. Ça veut dire que vous laissez la carcasse dans une grande casserole avec de l'eau, vous le faites bouillir. Et ça, eh bien, ça vous permet d'avoir un excellent bouillon de poulet qui vous réconfortera durant ces froides nuits qui nous attendent ces prochains jours quand la nuit tombe à 18h. Et c'est plein de collagène, ça vous permettra d'avoir une très belle peau.
Merci beaucoup Thomas. Et non, ceci n'était pas un podcast de Philippe Etchebest.
Et voilà, je prends un autre micro encore une fois. Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne. Il est 20h07 et 18h07 sur Radio Campus Paris. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Fin octobre, le Festival Paris Science, session grand public, prenait ses quartiers au Muséum d'Histoire Naturelle, un événement à la croisée des arts et des sciences que nous sommes allés découvrir avec Clara et qui a suscité en nous quelques réflexions. L'art peut-il permettre la vulgarisation scientifique ? Est-ce que toutes ses formes sont efficaces et jusqu'à quel point ? Déclenche-t-il par exemple des comportements plus éco-responsables ? Pour savoir si les étudiants de la Sorbonne perçoivent une utilité scientifique dans l'art, Clara est allée à leur rencontre.
Ah mais totalement, bien sûr. Rien de l'art. J'ai eu la chance d'étudier le futurisme, qui est du coup un mouvement artistique qui se voit total, donc un art global qui prend en compte toutes les formes d'art possibles et qui vulgarise plein de théories qui ont été développées à cette époque-là, donc début 20e, comme la théorie de la relativité de Einstein. Tous les supports font office, enfin ils suivent la même doctrine, donc à partir de ce point-là, ils vont tous à peu près dire la même chose.
Oui, je pense que les arts ont leur place en vulgarisation scientifique, de façon visuelle, sonore, le théâtre. Ça peut permettre de les mettre face à des problématiques et des questionnements auxquels ils n'auraient pas pensé. Je pense particulièrement à la photo qui peut être impactante aujourd'hui sur les problèmes environnementaux.
Et moi, du coup, je fais de la biomarine, je fais de la photo. Je fais un peu de photo sous-marine justement pour un peu faire découvrir ce monde que les gens voient beaucoup du dessus. J'ai été bien impacté aussi par des films, par exemple le dernier, David Attenborough, qui déjà vient un peu critiquer aussi les techniques de pêche. Ça vient un peu choquer en mettant la réalité en face des gens. Après, j'ai aussi un autre exemple, c'est Christian Sardet. Donc c'est pareil, qui lui va faire des schémas plutôt, des dessins pour un peu simplifier l'histoire de la vie. Il a fait aussi un truc sur la photo, du coup pour représenter un peu la vie très petite qu'on peut pas voir à l'œil nu.
Les arts qui peuvent contribuer à la représentation scientifique, pour moi, c'est la photo.
parce que en science, dans la recherche, on utilise beaucoup l'image.
J'étais sensibilisée dans les séries, les films ou les livres. Par exemple, le classique, le livre Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, un monde un peu dystopique qui parle de eugénisme. Ou sinon, des séries comme Orphan Black où ça parle de clonage. Moi, ça m'a surtout aidé pour apprécier la biologie, quoi.
Oui, l'art, ça a une place très importante. Je pense parce que de nos jours, on a des publications qui sont très complexes à comprendre. Le plus basique pour moi, ça serait peut-être Il était une fois la vie. Donc ça va être très média, voilà, série, pourquoi pas des films.
Les documentaires en général.
Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allée voir Arco au cinéma. C'est un super dessin animé. Il y avait plein de petites références écologiques dedans et tout. Un peu sur comment se projeter dans le monde de demain. Et que là, en fait, en ce moment, il n'y a pas trop de solutions.
Moi, j'ai vu un film qui s'appelle Nausicaa, la vallée du vent, qui est un Miyazaki. J'avoue que j'ai trouvé le film assez intéressant, assez touchant. Mais ça... pas plus que ça a impacté mes habitudes écologiques. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment un bon film, mais il y a de quoi de convaincre des gens.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous vous sentez concerné par justement toute cette science? Est-ce que pour vous, ça nous entoure dans la société?
Ah bah, oui, carrément. Enfin, là, on a pu entendre que c'était surtout les arts visuels, cinéma, photo, qui revenaient. Mais dans les pièces de théâtre, je trouve, la sensibilisation à la science et notamment aux enjeux climatiques, elle est quand même assez présente. Après, il y a quelque chose qui revient assez souvent et que je partage, c'est que, oui, on peut conscientiser des choses, mais on reste pour autant impuissant. Et il y avait une des étudiantes qui disait ça à un moment, que oui, elle avait vu quelque chose d'assez touchant, qui lui faisait réfléchir sur les perspectives de demain, mais qu'en fait, à notre échelle, on peut changer certains comportements, mais qu'il faut plus. Donc ça ouvre le débat, comme ce qu'on va faire là, mais c'est assez frustrant aussi.
Mais est-ce que c'est pas un peu ça aussi l'objectif de l'art, c'est de... ce qui, en premier lieu, paraît justement impuissant et ne pas faire de changement. Et en fait, il y a de l'influence, il y a de la communication, il y a du marketing, il y a tout ça qui tourne autour de l'art et qui fait qu'on en parle finalement. Donc ça peut changer les choses.
Déjà, moi, j'ai toujours vu l'art, enfin, je pense que beaucoup de personnes aussi, mais comme un moyen d'expression, et notamment un moyen d'expression politique, avec des messages forts qui peuvent passer, etc. Dans plein de films, il y a ça, etc. Et en plus de ça, je trouve que c'est d'autant plus important sur la cause écologique dans un monde où, par exemple, on a Shane qui s'installe au BHV en 2025. Donc, je pense que c'est important de garder ces thématiques-là et de garder l'art comme un pouvoir politique à part entière.
Je trouve aussi que c'est hyper important et que c'est pas le meilleur, certainement, mais... un des moyens de s'exprimer sur les sujets, l'art, que ce soit la politique ou même de critiquer d'autres gens. Mais en tout cas, concernant le cinéma, je ne suis pas un très bon élève parce que je ne vais jamais au cinéma. Je sais que ce n'est pas bien, qu'il y a plein de trucs qui sortent. Mais, là-dessus, j'ai...
Au cinéma, tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne lisais pas de livres.
Non, je ne suis pas...
Comment tu t'informes? C'est pas possible.
Je ne sais pas. J'écoute Radio Sorbonne. C'est comme ça que je m'informe.
Ah, et oui, très bonne pub. Absolument.
Et puis, il y a certaines formes d'art qui sont plus exploitées que les autres. Quoi. Les séries, ça revient souvent. Dessin animé, Il était une fois la vie. Mais moi, je l'ai carrément saigné, c'est une série de dessins animés. C'est vrai qu'en fait, je réfléchissais théâtre et danse. On ne met pas trop en avant, par exemple, les problématiques du cancer ou des choses comme ça. Ça reste quand même assez science dure, dont on va parler dans des conférences, dans d'autres formats plus académiques. Donc je trouve qu'il y a encore du chemin à faire pour parler de recherche scientifique. Et c'est pour ça que j'ai adoré le festival Paris Science, de voir qu'il y avait un mélange art et science, de montrer des documentaires sur des recherches.
Après, je pense aussi que l'art, ça nous touche différemment avec l'âge. Par exemple, tu parlais des séries. Ma grand-mère, elle traîne pas sur Netflix. Et alors que, par exemple, ma sœur, qui a 15 ans, c'est sa principale source, je dirais pas, d'information. Parce que les séries, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment une source d'information. Mais en tout cas, ça l'a fait réfléchir sur certains sujets. Et ma grand-mère, ça serait plus la presse, par exemple, ou même la télévision, toujours. Et je pense que ouais, ça change aussi pas mal avec l'âge.
Oui, puis après, l'art, peu importe le médium, ça joue sur la sensibilité de la personne. Donc, oui. Forcément. Oui.
Mais après aussi, pour parler surtout de la science dans l'art et du côté scientifique qu'on peut retrouver dans l'art, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a pu quand même observer le fait que la science, elle est beaucoup moins présente dans toutes les formes d'art, que ce soit dans la peinture, la sculpture, les films, les livres, les documentaires et autres? Elle est beaucoup moins présente que n'importe quel autre pratiquement sujet, parce que c'est un sujet qui n'est pas tabou, mais un peu... On se dit que les personnes novices ne peuvent pas comprendre. Tandis que, je ne sais pas, sur pratiquement n'importe quel autre sujet, on peut en parler parce que c'est facilement explicable et facilement compréhensible. Ça n'a pas besoin d'une longue explication. Alors, c'est peut-être pour ça que la science, on la voit moins.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, bah, par exemple, en littérature, on a littéralement tout un courant littéraire qui est basé sur la science, qui est le naturalisme. Alors, certes, c'est vulgarisé, mais c'est... Ça reste basé sur des faits scientifiques.
Oui, mais c'est un mélange sociologique, c'est aussi le naturalisme. C'est pas seulement scientifique.
Oui, mais ça reste principalement de la science, quoi. Et en art, on a aussi des mouvements artistiques picturales qui sont picturaux, qui sont basés uniquement sur la science, le corps, etc. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est ok, j'imagine.
Ok, t'as bien fait de nous donner ton avis.
Après, ce qui me pose problème aussi, enfin si c'est problème, c'est pas un énorme problème, mais j'ai l'impression que dans l'art, souvent quand ça parle de science, à la fin ça se passe mal. Que c'est tout le temps la catastrophe, ou qu'à la fin des films, la planète elle explose. Et il n'y a jamais de moment où on lie le côté scientifique à bah, peut-être que ça se passe bien, qu'il y a des recherches pour, bah, tu parlais du cancer, je crois... Pour ça, il y a plein de recherches pour des maladies, pour le climat, pour plein de choses qui se passent bien. Et souvent, quand on voit que ce soit même dans des tableaux, dans des films, dans des séries, ça se passe mal tout le temps. Et ça, je trouve que c'est très dommage.
Mais il y a peut-être un côté utilisation pour, bah, par exemple, en fait, je pense aux séries. Si tout se passe bien tout le temps, bah, il n'y a pas le côté accrocheur des péripéties, rebondissements, etc. Donc le côté marketing, c'est vrai que la science telle que tu en parlais, qui manque à être bien présentée, c'est pas intéressant pour ce genre de médias là. Et par exemple, tu parlais du naturalisme, bah, par exemple en histoire, il y a grave eu un débat sur le fait de montrer l'histoire comme une science. Bon, là on s'éloigne peut-être un peu du débat qui était de sensibiliser à la recherche scientifique par les arts, mais les gens se sont pas dit ah mais si on présente l'histoire comme une science, ça va désintéresser ou faire peur, parce que justement ça va avoir ce côté scientifique, ça va au contraire gagner en légitimité. Donc je suis un peu mitigée sur le côté on met pas les sciences parce que ça risque de faire peur. Pour certains médias, je pense que oui, ils ont peur de perdre de l'auditoire, mais d'un autre côté il y a certaines disciplines qui gagneraient à avoir ça.
Bien, merci beaucoup pour ce petit débat. Sur ce, elle est sortie du silence, elle a sorti son album post-breakup, elle a porté sa revenge dress. Je parle ici de la grande, la culte, la trop lointaine, Lily Allen. On écoute tout de suite son top de l'album, Dallas Major, sur Cours d'honneur. My name is Dallas Major and I'm coming out to play. Looking for someone to have fun with while my husband walks away. I'm almost nearly 40, I'm just shy of 5'2". Teenage children, does that sound like fun to you? Cause I hate it here, I hate it here, I hate it here, I hate it. So I go by Dallas Major, but that's not really my name. You know I used to be quite famous, that was way back in the day. Leave. Il est 18h20 sur Radio Campus et 20h20 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur cours d'honneur et non dans un resto à enchaîner les plans en attendant que votre mari soit plus présent dans votre vie. Il faut voir le clip. Elle a conquis nos loves, nos relations, nos doutes. C'est à Elias maintenant de conquérir nos choix, notre Sorbonne, nos étudiants avec l'interview de Mélodie Tran-Truan.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Vous le savez certainement, les élections étudiantes approchent à grands pas. Vous vous posez des questions sur les associations étudiantes, vos droits ou encore votre vie d'étudiant. Cours d'honneur reçoit ce soir Mélodie Tran-Truan, vice-présidente étudiante de Sorbonne Université.
Bonsoir, Bonsoir Mélodie. Merci d'être présente ce soir avec nous pour l'émission.
Bonsoir Mélodie, merci donc d'être présente à Cours d'honneur. Tu es vice-présidente étudiante de Sorbonne Université depuis janvier 2024. Qu'est-ce qui a motivé ta candidature il y a quasiment 2 ans maintenant ?
Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci à vous de me recevoir pour cette interview. Donc oui, je suis vice-présidente étudiante de Sorbonne Université depuis le 25 janvier 2024. J'ai envie de dire que ça a un peu été le hasard. En fait, il faut savoir que lorsque je suis arrivée à Sorbonne Université, avant, je commençais mes études de santé et je ne savais pas qu'il y avait des représentants étudiants ou des associations étudiantes pour m'aider dans mes études et à mieux comprendre la vie étudiante. J'étais un petit peu perdue et pour mieux réussir mes études, j'avais eu recours à une prépa privée à un prix exorbitant et c'est seulement à la fin de l'année que j'apprenais qu'il y avait des ressources gratuites ou des élus étudiants pour m'accompagner. Et c'est là que j'ai décidé de m'informer. Je me suis dit, c'est trop cool, je vais m'engager dans une association étudiante, ce que j'ai fait. Et au fil de l'eau, je me suis dit que j'avais envie de pousser mon engagement plus loin, de faire plus, de faire quelque chose pour lutter contre la précarité étudiante. Et c'est ce qui m'a motivée du coup à me présenter aux élections étudiantes et plus tard à être élue vice-présidente étudiante de Sorbonne Université. J'avais plein de petits projets pour améliorer le quotidien des étudiants de notre université.
Un de tes rôles est de défendre donc, le droit des étudiants. Quelles sont les actions que tu as mises en place et que tu mets toujours en place d'ailleurs ?
Difficile de n'en citer que quelques-uns. S'il y a une chose dont je suis particulièrement fière, mais je tiens à le souligner, c'est un travail collectif avec le personnel administratif et enseignant. C'est notamment le congé menstruel qu'on a mis en place depuis cette rentrée. En fait, on a réécrit le règlement intérieur de Sorbonne Université qui autorise désormais chaque étudiante et étudiant de Sorbonne Université à s'absenter en cas de règles douloureuses et l'enseignant n'a pas le droit de pénaliser l'étudiant, c'est-à-dire que si l'étudiant ne se sent pas bien, il n'a pas besoin de fournir un justificatif médical. On sait que c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous avec un médecin. Et du coup, depuis la rentrée, l'étudiant peut s'absenter. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose un progrès dont je suis fière. Ça permet de nous rendre compte de la réalité physiologique des femmes et de aussi permettre aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions s'ils ont le droit de s'absenter lorsqu'ils ne se sentent pas bien et ne pas les forcer à venir lorsque les règles deviennent trop douloureuses.
Pour être vice-présidente étudiante, il faut bien être étudiante. Comment est-ce que tu réussis à allier à la fois la vice-présidence de Sorbonne Université et un master dans ton cas ?
Oui, aujourd'hui, je suis plus étudiante en santé, mais je suis étudiante en master. Alors, il faut savoir que pour le coup, j'ai une dispense d'assiduité. Je ne passe que les examens de fin de semestre. Du coup, je n'ai pas de contrôle continu, ce qui fait que je suis dispensée d'aller en cours. Et j'ai la chance pour le coup d'avoir des enseignants qui sont assez consignants et qui ne m'ont pas beaucoup vu ces 2 dernières années en cours. Donc, je dirais que c'est une question d'organisation. Il faut bien prévoir à l'avance aussi. J'hésite pas à communiquer auprès de mes collègues ou de la présidente de l'université lorsque je dis que c'est trop, que j'ai aussi besoin de me concentrer sur mes études. Donc je dirais que pour concilier ça, c'est beaucoup d'organisation et après on finit par y arriver.
Et qu'est-ce qui, au quotidien, te prend le plus de temps ? Est-ce que c'est plutôt le côté vice-présidence ou c'est les études, le master ? À quoi est-ce que tu mets le plus d'importance ?
Je dirais que dans l'état des faits, c'est une chance pour moi d'avoir été vice-présidente étudiante. Il faut savoir que du coup, dans chaque université française, il y a un ou une vice-présidente étudiante. Et là, j'ai la chance de faire des choses qui peuvent améliorer le quotidien des étudiants. Donc, à l'heure actuelle, ma priorité, c'est surtout la vice-présidence étudiante, au plus grand désespoir de mes parents, il faut l'avouer. Mais une fois que ce sera fini et mon mandat prend fin le 14 décembre prochain, j'aurai tout le temps pour me consacrer du coup à mes études.
T'as donc, et tu es donc toujours vice-présidente étudiante de Sorbonne Université. Pourquoi avoir choisi la vice-présidence et pas la présidence étudiante ?
Tout simplement parce qu'en fait, la présidence étudiante n'existe pas. Il n'y existe qu'une présidente de Sorbonne Université qui, à l'heure actuelle, c'est Madame Nathalie Drachtemam. Et elle a une équipe, en fait, de vice-présidents pour l'accompagner. Et moi, je suis du coup celle qui est en charge de la vie étudiante. Et je travaille pour cela, notamment beaucoup avec la vice-présidente formation et vie étudiante, Madame Stéphanie Bonneau. Donc voilà, j'ai choisi la vice-présidence étudiante parce que la présidence étudiante n'existe pas à Sorbonne Université.
Il n'y a pas de présidence étudiante, je comprends. Un peu mieux. Tu présides également la commission CEVEC, cruciale, parfois vitale pour les associations étudiantes et les étudiants eux-mêmes. Actuellement à 105 euros, qu'est-ce que tu pourrais répondre aux étudiants qui trouvent que cette contribution est trop chère ?
Alors il faut savoir que ce n'est pas Sorbonne Université qui fixe le seuil que les étudiants payent chaque année. Il est vrai que la CEVEC augmente et c'est quelque chose que je déplore. Notamment, Mais dernièrement, on a, avec la direction tout au long de la formation tout au long de la vie et la direction de la communication de Sorbonne Université, je vais mettre en place un projet qui s'appelle la valorisation CEVEC. C'est-à-dire que sur le guide étudiant en ligne, qui est d'ailleurs accessible à tous les étudiants et étudiantes de Sorbonne Université, nous allons communiquer sur la façon dont Sorbonne Université utilise la CEVEC pour renforcer la confiance de nos étudiants envers leur établissement. Du coup, on va détailler de façon, à partir de chiffres, comment la CEVEC elle est utilisée. Par exemple, si je peux citer un exemple, 13 euros de la CEVEC que les étudiants utilisent. Et je suis plus sûre du chiffre, c'est entre 12 et 13 euros et reversé au service santé étudiant de Sorbonne Université. Du coup, là, c'est le service santé étudiant, c'est ce qui permet aux étudiants d'avoir des rendez-vous avec un psychologue ou un médecin ou une sage-femme gratuitement. Ce que je voulais dire, c'est que, afin d'être sûr que les étudiants aient davantage confiance sur la façon dont on utilise la CEVEC, nous allons très prochainement publier la façon dont Sorbonne Université utilise l'argent, comment ils le dépensent, en détaillant comment chaque budget est utilisé.
Sorbonne Université résulte de la fusion des facultés de sciences et de médecine de l'Université de Paris avec l'Université Paris 4 et le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, fusion qui a eu lieu en janvier 2018. Comment est-ce qu'on peut instaurer un sentiment d'appartenance à une même entité lorsqu'on vient de fronts si différents ?
Tout d'abord, je permets de te corriger, Elias. Alors, le Muséum d'Histoire Naturelle est toujours un établissement indépendant. La fusion concerne la faculté des lettres, l'ex-Paris-Sorbonne, et du coup, oui, l'ex-Paris 6, qui est aujourd'hui la faculté de santé et la faculté des sciences et ingénierie. C'est vrai que créer un sentiment d'appartenance, c'était un énorme défi, parce que Sorbonne Université a plus de 25 campus, avec des campus qui sont répartis dans le sud de la France, également dans des régions périphériques. Il y a également Sorbonne Abu Dhabi, hors de France. Donc c'est compliqué de créer un sentiment d'appartenance. Un projet qui va voir le jour en mars 2026, c'est le projet de la boutique de Sorbonne Université. On s'est rendu compte que les étudiants sont fiers d'afficher les couleurs de l'université dans laquelle ils étudient. Donc en mars 2026, on va lancer une boutique de produits aux couleurs de Sorbonne Université, afin que les étudiants du coup puissent porter les couleurs de leur établissement. Et je dirais que ce qui est également important pour créer un sentiment d'appartenance de Sorbonne Université, c'est les événements fédérateurs. Par exemple, les Sorbonnales, que nous organisons à chaque rentrée. Ça permet aux étudiants de penser à autre chose et de se réunir, mais également de découvrir leur vie étudiante, parce que lors des Sorbonnales, il y a également tout le personnel de Sorbonne Université qui est invité. Du coup, ça permet aux étudiants d'échanger avec le personnel.
Donc, et RSU qui est également présent au Sorbonnale.
Oui, exactement. Donc, continuer à organiser des moments fédérateurs pour les étudiants. Je pense que la boutique Sorbonne Université est un pas dans la bonne direction. Et également, il faut communiquer.
et les RSU qui remercient également la CVEC pour en partie financer Radio Sorbonne Université et nous permettre de développer des projets que je trouve vraiment exceptionnels, comme par exemple de partir là fin novembre à Villefranche-sur-Mer, et c'est en grande partie grâce à la CVEC, donc on les remercie. Sorbonne Université fait partie des universités ayant le plus faible taux de participation aux élections étudiantes de France. Moins de 5% des étudiants ont voté aux dernières élections. Comment donner envie aux étudiants d'aller voter ?
Il faut dire aux étudiants que c'est un moment où ils peuvent participer véritablement à la vie démocratique de l'université. Parce qu'en votant, ils peuvent contribuer à porter leurs attentes, que ce soit sur l'accueil des étudiants internationaux, la vie associative, l'insertion professionnelle ou encore l'égalité des chances. Ce sont des propositions qui sont portées du coup dans les conseils centraux de Sorbonne Université. Et puis, en fait, les étudiants doivent être acteurs et actrices de leur quotidien. En votant, du coup, ils vont décider des orientations qui seront décidées par Sorbonne Université et ça va directement impacter leur quotidien.
Et comment expliquer le fait que moins de 5% des étudiants votent ?
Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, je me suis toujours dit que c'était difficile pour les étudiants de s'intéresser à la vie étudiante si leurs propres enseignants ne s'y intéressaient pas. Parce qu'il faut avouer que les enseignants, c'est quand même l'interlocuteur privilégié des étudiants. Et j'ai vu des enseignants qui s'impliquaient dans la vie étudiante et même parfois qui soutenaient les initiatives des associations étudiantes. Et en retour, ça donnait envie aux étudiants du coup de s'intéresser à ça. Donc je dirais qu'il y a l'influence des enseignants. Aussi, il faut communiquer. Mais c'est vrai que la communication, c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter. Quand on est étudiant, on a tellement de choses à faire. On doit trouver un stage, concilier nos études. Certains ont également un emploi d'étudiant à côté. Donc aussi, je pense qu'on ne prend pas le temps, et ce n'est pas la faute des étudiants, mais on n'est pas au courant qu'il y a des élections. En fait, il y a aussi la communication à faire là-dessus. Ou peut-être, je peux oser le dire, il y a des étudiants qui pensent que voter, ça ne sert à rien, que ça ne va pas changer grand-chose, qu'il n'y aura toujours pas assez de micro-ondes à basse herbe ou des choses comme ça. Donc, d'où ce désintérêt.
Et la dernière question donc, de cette interview, la question phare qu'on pose à tous nos invités sur Cours d'honneur, que représente la Sorbonne pour toi ?
Je dirais que la Sorbonne, ça fait partie de moi, c'est la deuxième maison en fait. Alors il faut savoir que lorsque mes parents ils ont emménagé dans la ville où j'habite, ils ont fait exprès de prendre un logement qui en fait allait mener directement vers la gare d'Austerlitz qui n'était pas loin de la Pitié-Salpêtrière. Parce qu'ils se disaient, mes enfants vont étudier à l'UPMC. Mais du coup, c'est devenu Sorbonne Université. Donc j'étais un peu prédestinée à étudier à Sorbonne Université. Je dirais que c'est un lieu où je me suis construite en tant que personne, où j'ai fait des rencontres formidables. Et ça a aussi forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment une fierté pour moi d'étudier à Sorbonne Université. Sorbonne Université, c'est un monde, c'est un univers. Les gens sont surpris lorsque je leur dis que Sorbonne Université, il y a plus de 55 000 étudiants. C'est plus d'étudiants que d'habitants au Liechtenstein, en fait. On est dans une ville, en fait. C'est un monde qui a beaucoup à offrir aux étudiants. Donc, je dirais que Sorbonne Université, c'est ma deuxième maison, oui.
Mélodie, Trantuan, tu es donc vice-présidente étudiante de Sorbonne Université. On rappelle que le vote des représentants étudiants au conseil d'administration et à la commission de formation et de vie universitaire auront lieu les 19 et 20 novembre prochains. C'était un plaisir de te recevoir sur Cours d'honneur. Merci beaucoup et très bonne soirée.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous surtout, Elias et Mélodie, pour cette interview très utile, je pense, et qu'on devrait rediffuser partout, en fait. On va contacter la com tout de suite. Bon, ce n'est pas parce que Chirine a échappé à l'animation de Cours d'honneur que vous allez échapper à Rossal et à... Elle annonce son très proche album avec son EP Burgain, mélange de classique, de pop et de magie que vous écoutez tout de suite.
till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Till you love me.
C'était Bergain de Rosalía et n'oublions surtout pas Björk, la grande et ultime Björk. Vous êtes toujours sur Cours d'honneur, il est 18h37 sur Radio Campus Paris et 20h37 sur RSU. Vous avez peut-être été transporté par cet orchestre mythique et on va maintenant vous transporter dans les sciences, dans la magie du cinéma, que dis-je, dans la réalité d'un festival du film scientifique. Tout de suite, le reportage par Clara et moi-même.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Durant la dernière émission de Cours d'honneur, on a pu recevoir Romane Orly, la programmatrice de la 21e édition du Festival Paris Science, le Festival international du film scientifique. Cette interview nous a donné envie, nous, Clara et Swan, de nous rendre à l'édition grand public qui se tenait du 23 au 27 octobre 2025. Pendant 5 jours, Paris a vibré au rythme de projections et de rencontres autour de grandes questions scientifiques d'aujourd'hui. Climat, intelligence artificielle, santé, biodiversité, tout y est passé et ce festival n'est pas seulement là pour informer, il veut donner envie de comprendre, de débattre, de penser la science autrement. Comment le documentaire scientifique peut-il toucher, éduquer et faire réagir le grand public sur les enjeux du monde de demain ? Tout de suite, le reportage.
On rejoint Camille Guiton, la responsable de communication. Grâce à elle, on va pouvoir se promener dans le festival, aussi bien auprès du public que des organisateurs. Elle se charge de nous raconter le fonctionnement de Paris Science, qui est doté de 3 lieux de diffusion de films. Au muséum, dans l'auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution et dans l'amphithéâtre Verniquet, ainsi que dans un second amphithéâtre à l'Institut du Globe de Paris. Les places sont complètes, il prévoit beaucoup de monde.
Bah, on a forcément une jauge qui est limitée parce que nos salles ont des limites de place. Après on fait une surjauge parce qu'on sait très bien qu'on a un peu de déperdition de temps en temps sur des séances, mais elle n'est pas non plus énorme puisque là cette année on a quand même 6 séances avant le début du festival qui étaient complètes.
Les projections sont correctement organisées selon des thèmes spécifiques qui rythment le festival.
On a plein de thématiques différentes, autant biodiversité et environnement, mais cette année la programmatrice a aussi choisi de faire 3 focus, notamment dans la programmation, on peut retrouver eau et océan, santé mentale et portrait de femmes scientifiques.
Grâce à Camille, on peut maintenant s'adresser à Simon Veil, responsable des partenariats et du mécénat. Il se charge de nous raconter les origines du festival qui date de 2001. Car finalement, d'où vient ce lien entre film et science ?
Au départ, c'était un regroupement de producteurs et productrices, notamment de films de science, qui avaient pour ambition de se constituer en association pour exercer une sorte de pression, de lobbying auprès des chaînes, des diffuseurs, donc les Arte, les Ushuaïa, les France Télé, pour mettre en avant le film scientifique français, à une époque où c'était davantage un film anglophone qui était mis en valeur sur ces chaînes. L'idée, c'était vraiment de créer des cases science auprès de ces différentes chaînes.
Il faudra donc 4 années pour former ce regroupement et le mettre en place. Ce festival naîtra alors avec comme ambition principale de partager des connaissances et de rendre le film scientifique accessible au grand public. Mais ensuite, comment financer un festival d'une telle envergure ?
C'est un festival gratuit, et donc pour financer tout ça, il faut qu'on fasse des partenariats, qu'on ait des soutiens, des partenaires publics. On le fait avec de nombreuses structures de recherche et d'enseignement qui nous soutiennent, que ce soit des universités, des centres de recherche, et aussi quelques partenaires privés. Et l'idée, c'est que tous ces partenaires participent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des séances, par des rencontres ou par des appels à projets.
En effet, le festival organise des rencontres après chaque film qui permettent de mélanger réalisateurs, partenaires, scientifiques et publics.
On fait des débats après chaque séance de projection. Et pour ces discussions-là, on invite une personne qui a fait le film, donc réalisateur, réalisatrice ou équipe de production, et en binôme avec un ou une scientifique qui est experte du sujet du film.
Nous venons d'entendre Maya Nadri, coordinatrice et référente internationale du festival. Elle assure la gestion complète des films, sélectionnés sur le plan matériel, administratif et technique. C'est donc elle qui coordonne toutes les étapes entre la sélection et la projection, en garantissant la bonne circulation des copies et informations liées au film. Véritable trait d'union entre les équipes et les invités du festival, elle veille à la cohérence des sélections et à l'équité des prix en orchestrant le travail des jurés.
On fait la sélection des jurés en équipe, mais moi par contre je suis responsable de les inviter, de leur envoyer les bons films, organiser une délibération pour faire choisir le lauréat, etc.
Nombreux sont ceux qui se cachent derrière l'organisation et la coordination de ce festival, depuis la sélection des films jusqu'à l'accueil des invités. Grâce à notre interview avec Roman Orly lors d'une émission Cours d'honneur, on connaît maintenant les secrets du choix des films. Sans oublier qu'à disposition des jeunes réalisateurs et chercheurs scientifiques se tient une compétition sur 48 heures nommée Symbiose.
On les réunit, on fait des binômes en tirant au sort et ensuite ils ont 48 heures pour faire un film.
Paris Science ne manque pas d'idées pour diversifier son lien entre le public et les sciences. On a pu se rendre auprès des spectateurs pour capturer leurs avis sur les films.
J'ai beaucoup apprécié le mélange entre la partie historique, l'esthétique du documentaire, la manière dont ils ont mis en scène les perspectives sociologiques, historiques, rendre vivant le récit de ce juge qui a fait mettre des pseudo-sorcières au bûcher. C'était très réussi.
J'ai adoré la projection, c'était vraiment hyper intéressant. C'est un sujet qui me passionne pas mal et très bien réalisé. Et c'est la première année que j'y vais du coup et j'y retournerai hein, parce que là j'ai pu voir que deux films et j'aimerais bien en voir plus.
C'est la deuxième édition à laquelle on participe et les deux fois ça a été en fait une orgie de documentaires. On s'en fait entre 10 et 12 dans les quelques jours. Donc ça c'est intense. Les lieux sont chouettes et les films sont pas des films qu'on serait forcément allé voir par ailleurs. Mais justement on découvre des choses.
J'ai découvert l'année dernière, c'est vachement intéressant, hyper divers et accessible en fait.
Avec ces séances de conférences, le cœur du projet de Paris Science est de réconcilier les gens et les sciences.
Après chaque projection, il y a un échange avec et l'équipe du film et des scientifiques qui sont spécialistes des sujets qui ont été abordés dans le film.
Dans un climat de restrictions budgétaires envers l'enseignement supérieur et la recherche, pérenniser cette symbiose entre art et science apparaît davantage crucial. Vulgariser les connaissances, inspirer des carrières ou encore faire valoir l'importance des sciences dans nos vies quotidiennes, le festival Paris Science relève ces défis. Rendez-vous donc en octobre prochain pour une nouvelle édition.
Et maintenant, place au reportage, à la chronique débrouille.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table !
Novembre est là, les nuits tombent tôt, le froid s'installe, bref, le combo parfait pour plomber le moral. Heureusement, Mathilde a décidé de nous sauver avec une sélection de sorties et bons plans pour rendre ce mois beaucoup plus lumineux. Entre expos, ciné et petites pépites culturelles, elle nous prouve que novembre peut aussi rimer avec plaisir.
Et oui, c'est déjà la fin des vacances, le retour des nuits qui se rallongent et du froid qui s'installe. Bref, il y a de quoi déprimer. Donc aujourd'hui, je vous propose une sélection des meilleurs plans pour combattre ce mois un peu déprimant. On commence avec le top 3 des expositions à ne pas manquer ce mois-ci. Premièrement, le Grand Palais vous ouvre ses portes pour sa 28e édition de Paris Photo du 13 au 16 novembre. L'exposition vous invite à explorer la photographie dans toute sa richesse et sa diversité sous la magnifique verrière du Grand Palais. On enchaîne avec l'exposition coup de cœur de cette fin d'année, c'est 2025, 100 ans d'art déco au musée des arts décoratifs. Plongé au cœur des années folles, une époque où l'art, le design et la mode étaient totalement déchaînés. Plus de 1000 œuvres sont à découvrir, meubles stylés, bijoux étincelants, pièces de mode iconiques, objets d'art insolites et même une partie de l'Orient Express. Bref, un vrai voyage dans le temps et cerise sur le gâteau, l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans. Raison de plus pour y aller car être étudiant veut surtout dire être fauché. Et si la Terre vous saoule définitivement, je vous emmène sur la Lune et ouais, rendez-vous à l'Atelier des Lumières où vous pourrez découvrir une expérience immersive à 360 degrés coécrite par Tom Hanks. Vous serez plongé au cœur d'images rares de la NASA et de l'histoire de la conquête de la Lune. Par contre, fuir la Terre à son coût, et oui, même en prix réduit, le tarif s'élève à 16 euros, de quoi en dégoûter plus d'un. Donc si vous tenez vraiment à y aller, vous avez un mois top chrono pour réunir des fonds, puisque l'exposition fermera ses portes le 4 décembre. Et puis, si avec ça vous avez toujours peur de déprimer, ne vous en faites pas, chaque année, la période de Noël commence un peu plus tôt. Donc si vous êtes branché Noël avant l'heure, pas de souci, les marchés de Noël des Tuileries vous attendent à partir du 15 novembre. Enfin, je vous partage le bon plan cinéma. Si vous vous dites en sortant de la fac, tiens, je me ferais bien un ciné et que votre pote vous sort, ouais, mais moi j'irais bien manger, pas de souci, vous pouvez faire les deux. Le concept se présente ainsi, projection et dégustation. Pour ce faire, rendez-vous une fois par mois rue Mouffetard au cinéma de l'Épée de Bois. C'est à 5 minutes de notre chère Sorbonne-Mère. Vous pourrez regarder un film et vous péter le bide en même temps, tout ce qu'on aime. Le repas est inspiré de l'intrigue car les films, plus qu'être vus, peuvent être vécus et rien de plus évocateur que le goût. Vous payez le prix de la place de ciné plus 9 euros pour les encas. La prochaine séance se tiendra le 24 novembre. Au menu, le festin chinois de Tsui Hark. Et si vous n'êtes pas branché nourriture asiatique, attendez vos tours, il y en a pour tous les goûts. Je sais que lors de la projection de Zorba le Grec, ils avaient proposé des pitas et un dessert à l'orange typique de Grèce. Avis donc aux gourmands et aux curieux, le mois de novembre s'annonce riche en activités à ne pas manquer.
Merci beaucoup pour cette chronique. Ça nous donne envie de sortir là, mais il est 20h, c'est dommage. Bon, maintenant, assez parlé de ça. Sortier de nourriture, parlons de météo. Je plaisante bien sûr, on ne va pas parler du vent, mais seulement de son murmure dans un des nouveaux titres de Kali Yukis. Whisper on the Wind, tout de suite sur Cours d'honneur. Of the Wine de Kali Yukis. Vous êtes toujours sur Cours d'honneur. Il est 18h49 sur Radio Campus Paris et 20h49 sur Radio Sorbonne Université. Et ce vent nous mènera pas si loin puisqu'on aborde la chronique pavée avec Ellie, non loin de la Sorbonne.
Shut up. Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
Aujourd'hui, dans la chronique pavée, Ellie nous emmène sous le quartier latin et notre chère Sorbonne dans un lieu insolite que vous avez forcément déjà vu si vous venez à la fac en transport. Et oui, on parle de sa station de métro qui a une histoire bien chargée. Alors prenez votre passe Navigo et on suit Ellie dans cette chronique souterraine.
Aujourd'hui, je vous embarque donc, et oui, sous terre.
Eh oh, Jamy !
Eh Jamy !
Dis donc, Jamy !
Oui, oui, on plonge dans le métro parisien, mais pas n'importe où, à Cluny-la-Sorbonne. Rien que le nom déjà, ce sont les bouquins, les étudiants en philo et les cafés remplis de débats existentiels. Et pourtant, cette station a une histoire digne d'un feuilleton. Flashback, on est en 1930, quand la station ouvre ses portes sur la ligne 10.
Hémorroïde fumant ? Hémorroïde fumante ! Cécile a très mal aux pieds. Cécile a très mal aux pieds. La baguette de ton beau-père. La baguette de ton beau-père.
Mais ouais, on...
À l'époque, c'est la classe. On est... On est juste à côté du musée de Cluny, dans un ancien hôtel médiéval, et à deux pas de la Sorbonne, le temple du savoir. Bref, la station porte bien son nom, culture, histoire, neurones bien chauffés et grand intellectuel au programme.
Moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok ? Frappe-moi, je t'empoisonne.
Mais alors qu'on pensait que tout allait rouler patatras, en 1939, la station ferme, trop peu de passagers, trop de lignes autour, et hop, rideau. Cluny-la-Sorbonne devient une sorte de fantôme de métro parisien, une station oubliée sous les pavés. Pendant près d'un demi-siècle, elle roupille dans le noir.
Mais laisse-moi dormir, Azim.
Jusqu'à ce qu'on dise dans les années 80, tiens, et si on la rajoute. Et c'est reparti.
en 1988, la station renaît grâce à la création de la correspondance avec le RERB, une vraie résurrection, genre phénix du métro. De pied, elle fait le lien entre le métro, le RER et le quartier latin. Une seconde vie bien méritée. Et si vous y passez, levez les yeux sur les voûtes, vous verrez une magnifique mosaïque colorée signée Jean Bazaine. Il y a des noms qui scintillent dans la céramique, Rimbaud, Hugo, Pascal, Voltaire, bref, tous ceux qui ont fait transpirer des générations d'étudiants à la Sorbonne. On a presque l'impression que les mots s'envolent au-dessus des rails, comme si la poésie avait pris le métro elle aussi. Je sais, c'est très profond, mais que voulez-vous ? Tout ça me transforme en poétesse torturée apparemment. Et puis soyons honnêtes, sortir à Cluny-la-Sorbonne, c'est un peu comme débarquer dans un manuel d'histoire vivante. À deux pas, vous avez le musée de Cluny, ses tapisseries médiévales, le boulevard Saint-Michel, les librairies anciennes, les terrasses d'étudiants. On passe de la station à l'effervescence du quartier latin en quelques marches. C'est le genre d'endroit où le passé et le présent se croisent, où l'art et la vie quotidienne se donnent rendez-vous. Alors la prochaine fois que vous entendrez la voix de dire Cluny-la-Sorbonne, ne la laissez pas filer. Regardez autour de vous, vous êtes dans une station qui a survécu à l'oubli, qui célèbre la culture sous toutes ses formes et qui prouve que même dans le métro, on peut faire une vraie rencontre avec l'histoire. Merci beaucoup, Élie.
J'ai juste une petite question, c'est la station de Cluny-la-Sorbonne que t'as croisé Diane Kruger ?
Presque, c'était en sortant du Jardin du Luxembourg.
Merci beaucoup, parce qu'on l'a tous appris quand même, Diane Kruger.
Merci de le spécifier, je vais le dire à la France entière.
Voilà, je pense que c'est une information capitale. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cette chronique. On y repensera à chaque fois qu'on sera en retard dans le métro à Cluny-la-Sorbonne. Et tout de suite, on a la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Pour cette carte postale de la Toussaint, Lavinia nous emmène chez elle au Luxembourg pour visiter... Mais tiens d'ailleurs, on parlait du Luxembourg. Pour visiter les locaux de l'Essentiel, la radio francophone la plus écoutée du pays. Et si un jour, vous passez la frontière de la Moselle, vous pourrez écouter cette fréquence régionale en connaissant désormais ses coulisses.
Hello, cour d'honneur. Comme Swann vous l'a déjà bien dit, en correspondance du Petit Grand-Duché, je vous emmène découvrir aujourd'hui l'Essentiel de l'Essentiel. The news
non-stop. L'Essentiel Radio.
Bonjour, je suis Emmanuel Fleig, je suis le directeur du groupe L'Essentiel depuis maintenant 2007, date du lancement du premier journal gratuit au Grand-Duché de Luxembourg. Nous sommes donc dans d'anciens bâtiments industriels. Historiquement, ces bâtiments étaient occupés par ArcelorMittal et lorsque nous avons réhabilité ces locaux, nous avons essayé de conserver un cadre très industriel de la chose. Beaucoup de nos visiteurs nous disent « Waouh, j'ai l'impression de passer dans un loft à New York ». Je crois que nous sommes certainement le seul groupe média à pouvoir regrouper sur un seul open space quatre rédactions différentes, à savoir la rédaction du journal papier, la rédaction du site internet en langue française, la déclinaison en langue allemande et la rédaction de la radio.
C'est justement dans le studio d'enregistrement d'Essentiel Radio que se poursuit notre visite.
Je m'appelle Sam Tabar, je suis directeur des programmes de l'Essentiel Radio et je vous invite à entrer avec moi en studio. Alors on entre, on est en direct cet après-midi, donc Rémi qui anime la tranche de 10h à 15h, accompagné de Kim qui assure les infos tout au long de l'après-midi aujourd'hui. C'est toujours le même studio tout au long de la journée, toutes les émissions de 6h du matin à 20h se passent ici, chaque jour, du lundi au vendredi, puisque le week-end on a une partie des émissions qui est enregistrée. Les écrans que vous voyez ici du côté gauche permettent de gérer toute la partie des réseaux sociaux, et quand on lance des jeux concours, en fait on travaille exclusivement avec les réseaux sociaux, à l'instar d'autres radios, parce qu'en fait, le Luxembourg a un peu une position atypique. On draine énormément de frontaliers côté belge et côté français. Ils n'ont pas la possibilité de jouer avec un numéro payant shortcode via les services de téléphonie mobile. Le côté un peu atypique de l'Essentiel Radio, c'est que on regroupe à la fois la communauté portugaise, italienne, tout qui parle finalement français au Grand-Duché de Luxembourg, plus effectivement les frontaliers qu'on a réussi à fidéliser sur leur lieu de travail ici au Luxembourg et qui finalement maintenant partent avec nous le matin en voiture et rentre avec nous le soir. L'animateur qui vient de passer devant vous, c'est Rémi, et c'est le plus vieux de l'équipe aujourd'hui. Il était là lors de la création et du lancement, et donc Rémi, lui, a participé vraiment à la phase d'élaboration de la radio, du montage des studios, tout ça il a connu. Moi j'ai pas connu, je suis arrivé quelques mois après. Rémi, j'expliquais Bonjour. Que tu étais le plus ancien de la maison aujourd'hui,
oui.
Puisque finalement moi je suis arrivé après toi, et donc comment est-ce que tu as vécu le lancement il y a 10 ans? Comment se sont passés les préparatifs? C'était quoi l'ambiance, l'esprit?
Alors l'esprit, c'était pour schématiser l'inauguration de la radio le lundi. Le dimanche, on était encore dans le studio en train de s'entraîner, alors qu'on n'avait pas tout le matériel qui était finalisé. Donc c'était assez stressant, mais c'était un bon stress, parce que moi en plus, c'est la première fois que je faisais le lancement d'une radio, première fois de ma vie, et finalement tout s'est bien passé, puisque tout le matériel était opérationnel pour le lancement, avec les ministres, le premier ministre Xavier Bettel qui a fait le lancement de la radio, il a appuyé sur le bouton on, et puis juste derrière on a fait la première émission, et puis c'était lancé, voilà, ça fait 10 ans que ça dure. Je sais que ça vous fait toujours plaisir d'écouter un petit Michael Jackson, c'est pour ça qu'on va rechercher les titres des années 70-80. Les meilleurs hits sont sur l'Essentiel Radio, avec dans un instant, Ravine Lena.
The news non-stop. L'Essentiel Radio.
Merci beaucoup Lavinia, on t'embrasse, on aimerait que tu sois présente, mais non, elle n'est pas là. Et voilà, vraiment, maintenant, on n'a qu'une envie, en fait, c'est d'aller faire un stage à l'Essentiel, finalement. Bon. Sur ce, c'est la fin du 4e épisode de la saison. Cours d'honneur, épisode 4, saison 5, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi, mais merci surtout à notre invité, qui était interviewé par Elias. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi. Merci à toute l'équipe. Merci Ellie.
Merci à tout le monde, merci à nos auditeurs et auditrices de nous écouter à chaque fois. Je suis désolée pour les petits rires de gêne occasionnés, mais moins ça fait rire pas mal de monde. C'est ça qui est bien. Voilà, bisous, à la prochaine.
On était hilar. Merci beaucoup Mathilde.
Merci à vous de m'avoir accueilli pour cette première fois.
Et avec grand plaisir. Merci beaucoup Elias, le fameux.
Merci à vous, merci à tout le monde et merci à Thomas pour sa réalisation particulièrement bien.
Ouais, j'ai eu une grosse journée moi aussi.
Merci beaucoup à toi aussi Clara pour ce reportage.
Mais avec plaisir, là c'était une édition spéciale Science et Art, hein. Reportage, oui, micro-trottoir. Heureusement qu'on avait des petites infos historiques croustillantes 6 pieds sous terre. Et puis des bons plans ciné-gastro, j'ai bien noté tout ça, hein.
Et donc merci aussi à Thomas pour ce superbe édito, on aurait cru parler à Chebest, quoi.
Ouais, manger 5 fruits et légumes par jour.
Absolument. C'était merci bon. Évidemment à Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat. N'oubliez pas, Cours d'honneur passe en mode bimensuel, un épisode toutes les 2 semaines. D'ici là, ne vous goinfrez pas trop de raclette ou de marathon de films sous la couette. Pensez à voter et pensez à explorer. Soyez vous-même, soyez fous même, restez curieux, restez avec nous, on vous aime. Bisous, ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.